Moi, ça m'avait beaucoup marqué, et à l'époque, j'ai essayé d'aider un peu sa famille, et ça m'a rapproché un peu de ceux qui ont voulu se battre pour maintenir Sir Alep.
Et qu'est-ce qui vivait si mal
Je pense qu'il faisait partie des cadres de la direction, et il vivait mal le fait que cette entreprise allait fermer, alors que, comme beaucoup, on pensait qu'on pouvait la garder ouverte. Et je crois que, comme beaucoup, moi j'ai découvert ensuite, on s'est aperçu qu'on aurait pu faire des tas de choses qui n'ont pas été faites par les anciens actionnaires.
Par exemple ?
Par exemple, en essayant déjà de plus dire on licencie 100 personnes ou 120 personnes ou 300 personnes ou 2000 personnes, mais de dire on a besoin d'économiser tant de milliers ou de millions d'euros, et de se dire, eh bien, cet argent-là, on va essayer de le trouver ailleurs qu'en licenciant.
C'est-à-dire qu'il y a comme une routine qui s'est installée où dès que ça va mal, on estime que c'est par les suppressions de postes qu'on s'en sort, ou même quand ça va bien d'ailleurs des fois.
On fait un peu dans la facilité, mais donc on fait des plans de licenciement. De toute façon, c'est quand même à moyen terme une aberration microéconomique parce qu'on perd des compétences et une aberration macroéconomique parce que quand vous licenciez dans l'entreprise A, vous avez des chances que le licencié lui-même de l'entreprise A n'achète plus dans l'entreprise B, qu'ensuite on licencie dans l'entreprise B et on continue et on fait ça depuis d'ailleurs 25 ans.
Vous dites depuis 25 ans ça fonctionne de cette manière-là ?
Oh, ça fait à peu près 25 ans, ça s'est accéléré énormément à la première guerre du Golfe, donc en 1991.
Pourquoi vous citez la date de 91, c'est précis ?
C'est très net. Oui, c'est très net. Je pense qu'au moment de la crise et de la guerre du Golfe, il y a eu un changement. Ça a été un peu chacun pour soi. On a vu une crise énorme arriver en 93. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des milliers de licenciements par jour. Et c'est clair qu'il y a eu un changement. On aurait pu croire que ça s'arrêterait. En fait, on est resté sur cette approche-là et elle s'est dégradée un peu depuis. Et maintenant, on est rentré dans un cycle, comme je vous dis. Alors, le CDI, on sait plus ce que c'est. Et puis, les licenciements à la va-vite de gens rentrés il y a beaucoup d'années ou il y a quelques jours, on met tout le monde dans le même sac et on passe tout le monde par-dessus la barrière.
Au niveau de Sir Alep, dans les dernières années, comment vous expliquez que les groupes se soient passés cette entreprise, qui quand même à un moment était assez rentable ? Vous disiez on avait quelque chose autour de 13%. Comment ça se fait que cette entreprise passe d'un groupe à un autre ?
Ce que je comprends pas, c'est qu'un groupe aussi riche que PPCI ait le droit de déposer un bilan d'une de ses filiales, puisqu'en fait, les licenciements et tous les fournisseurs qui éventuellement n'ont pas été payés, ou s'ils l'ont été, ont été aux frais du contribuable. Alors que vous avez à côté de ça une entreprise très riche, qui a des actionnaires immensément riches, qui s'appelle Riverside, qui s'est réinstallée très très vite à Vienne, en Slovaquie et ailleurs, qui a reconstitué d'autres outils de production, avait largement les moyens de prendre en charge l'arrêt d'activité de Sir Alep. Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable. Et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. C'est surprenant d'ailleurs que les politiques n'aient pas mis le haut là sur les plans de licenciement économique comme on les traite aujourd'hui. Aujourd'hui, Nestlé se pose des questions sur Perrier, non pas parce que Perrier perd de l'argent, mais parce que c'est un peu moins profitable qu'ailleurs. Si on analysait bien, on a pu comprendre que c'était ce qui était passé chez Danone avec Lu. Lu était un peu moins profitable que le reste. Donc, pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Voilà, et c'est pas, si vous arrivez, c'est pas un syndicaliste qui parle. Et c'est pas un chercheur, c'est pas un intello, c'est pas pour autant qu'il est ignorant de tout. C'est Dominique Artaud qui est actuellement directeur de Sir Alep, mais qui est aussi ex-directeur général de Coca-Cola. Donc voilà, des points de vue aujourd'hui, la mondialisation heureuse, avec un point d'interrogation, vue par les patrons et vue aussi par un économiste différent, Frédéric Lordon.
On a presque l'impression qu'il y a une solidarité qui se crée entre les ouvriers, y compris leur représentation syndicale, y compris, par exemple, des élus de la CGT et ses patrons paternalistes.
Le paysage conflictuel s'est enrichi d'un nouvel acteur, qui est le capital financier. Pendant les années fordiennes, la finance était tellement en retrait qu'on avait l'impression que le conflit structurant du capitalisme était celui qu'avait décrit Marx, c'est-à-dire celui qui oppose le patron, l'entrepreneur au salariat. Désormais, c'est un jeu à trois acteurs. Le capital financier est revenu en force dans le paysage et désormais, ce sont trois acteurs qui sont en interaction. Le capital financier, le capital industriel et le salariat. Alors quand bien même rien n'effacera le conflit structurant entre le capital industriel et